Bonjour et bonne fête aux mamans, aux mamans passées, aux futures mamans peut-être. Alors ce matin, on va parler du pardon. On a déjà parlé du pardon que Dieu nous a offert et ce qui en découle notre salut, mais on va parler du pardon que nous devons à nos frères et sœurs. Et quand je pense aux mamans, qui mieux que les mamans savent pardonner inconditionnellement? Alors, pourquoi parler du pardon ce matin? D'abord, il me semble que c'est une des choses dont on ne parle pas trop. Et pourquoi on n'en parle pas trop? Peut-être parce que on a du mal avec ça. Et pourtant, le pardon, c'est un sujet important. Important parce que c'est un commandement de Dieu. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça ne veut pas. Ça ne marche pas. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon, c'est aussi un sujet délicat et souvent mal compris. On ne veut pas trop y réfléchir. Parce que souvent, il nous met mal à l'aise. Notre société nous enseigne que pardonner, c'est être faible. On a appris aussi que quand on dit « je te pardonne », c'est comme si rien ne s'était passé. Et puis en plus, pardonner, ça coûte quelque chose. On aimerait bien être pardonné, mais on n'aime pas trop pardonner. Et puis c'est aussi un sujet qui nous implique beaucoup. Alors on va lire dans Matthieu 18, on commence au verset 21, Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors la question de Pierre, tiens, ça ne marche pas. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère quand il péchera contre moi? Il faut pardonner, mais combien de fois? À l'époque, les rabbins disaient 3 fois. Pierre, lui, est généreux. Il dit 2 fois, 3 fois, plus 1, pour faire bonne mesure. Il dit 7 fois. Que dit Jésus? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, pardonner sans limite. Il nous faut donc une attitude de pardon permanente envers ceux qui pêchent contre nous. Jésus dit à Pierre, en effet, si tu es en train de compter, tu n'es pas en train de pardonner. La question de Pierre provoque la suite de l'enseignement de Jésus sur le conflit entre frères et sœurs sous forme d'une histoire, une parabole. Alors on va continuer la lecture. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : Paye ce que tu me dois. Mais l'autre, son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors dans cette histoire, il y a le roi, le serviteur et le collègue du serviteur. Et dans la parabole, d'évidence, le roi représente Dieu, puisque c'est le royaume de Dieu. Et de ce que nous voyons des actes du roi, nous pouvons apprendre comment Dieu agit envers nous. Le serviteur, c'est vous, c'est moi. Nous pouvons nous mettre à sa place. Peut-être nous pouvons réfléchir à ce que nous aurions fait. Il me semble que la parabole laisse sous-entendre que nous aurions peut-être fait la même chose que ce serviteur. Et le collègue du serviteur, il représente les gens qui nous entourent. La question de Pierre est posée au sujet de son frère. Nous parlons donc de l'Église, de ceux qui sont nos frères et nos sœurs en Christ. C'est intéressant que nous parlions de l'Église et peut-être aussi de la famille. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'il est plus difficile de pardonner à ceux qui nous sont proches qu'à ceux qui nous sont plus éloignés, qu'au reste du monde entier ? Souvent parce que ceux qui nous sont proches sont les plus capables de nous blesser et que nous sommes impliqués, plus impliqués. Mais revenons à l'histoire. Le roi veut demander des comptes à ses serviteurs. Les serviteurs du roi ont des dettes et il exige simplement qu'ils les règlent. Voilà la mise en scène de la parabole, elle est relativement simple. La Bible nous dit que nous avons aussi une dette à payer. Cette dette s'appelle le péché. C'est le mal que nous avons fait aux autres, mais surtout à Dieu. Souvenons-nous, le fils prodigue, quand il retrouve son père, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Ou celle de David, après qu'il fut allé vers Bathsheba et qu'il ait fait tuer Uri, « J'ai péché contre toi seul. » Quand on fait quelque chose ou qu'on offense son frère ou sa sœur, c'est contre Dieu aussi. Alors, comme le roi de la parabole, Dieu va demander des comptes au peuple de la terre pour leurs péchés. Cela se passera à l'avenir, au dernier jour, comme on nous l'a rappelé déjà. Quand Dieu jugera le monde, il demandera des comptes de nos dettes. Et cette dette, elle augmente chaque jour par nos comportements pas très nets, et ça aussi longtemps qu'elle reste impayée. C'est un peu comme à la banque, vous savez, les intérêts là qui se cumulent. Le serviteur devait 10 000 talents au roi. 10 000 talents, vous savez ce que ça représente ? En gros, un talent, c'est 30 kilos d'argent. L'argent, au cours du jour, c'est 2 000 euros le kilo. 10 000 talents, 600 millions d'euros. Comment pouvait-il devoir 600 millions d'euros? C'était peut-être le Jérôme Kerviel de l'époque, vous savez, celui qui a bouffé tous les sous de la Société Générale. Alors, on voit l'énormité de la dette, et la réalité, c'est que c'est impossible de payer ça. C'est cela que Jésus veut que nous comprenions. Nous pouvons essayer de payer notre dette du péché. On peut toujours essayer. On n'y arrivera pas. On peut dire comme le serviteur, « Aie patience, je paierai tout. » On peut essayer. On peut faire tous nos efforts, ce serait vain. Elle est trop grande, trop énorme, au-delà de ce qu'on peut gérer. Le psaume 49 nous dit « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Le rachat de leur âme est très cher, il n'aura jamais lieu. » Alors comme le serviteur de la parabole, on a besoin que, par son propre choix, le roi efface notre dette. Alors, dans un premier temps, le roi voulait vendre le serviteur, sa femme, ses enfants, ses biens, tout comme c'était classique à l'époque. Hein. Et au lieu de cela, il se retrouve libre. Sa dette annulée, supprimée, effacée. Merci. Pardonnée. Plus de dette. Par son propre choix, Dieu a fait en sorte que notre dette puisse être pardonnée. Il a envoyé son Fils dans le monde pour mourir afin de payer la dette du péché, dette que nous ne pouvions payer. Jésus a vécu une vie parfaite et Dieu a accepté le sacrifice de sa vie parfaite pour payer la dette de notre péché commise, accumulée au cours de notre vie imparfaite. Paul aux Romains nous dit que le péché a une conséquence, le salaire du péché, c'est la mort. Sur la croix, tous nos méfaits étaient placés sur Jésus. Il est devenu péché pour nous, même s'il n'a jamais péché lui-même. Dieu l'a jugé, il l'a subi la mort que nous aurions dû subir. Et en échange, maintenant, nous pouvons avoir la vertu, la droiture de Christ placée sur nous comme notre péché a été placé sur lui. Un grand échange. Nous sommes déclarés justes devant Dieu, par Dieu. Dieu nous offre en Jésus quelqu'un qui peut payer la dette que nous lui devions. Alors, quand on profite de cet échange en plaçant sa foi en Jésus-Christ, on devient chrétien. Et notre vie commence à refléter ce qui a été fait par lui, pour nous. Mais c'est à ce point que l'histoire de la parabole s'écarte du chemin que nous aurions pu attendre. Le serviteur avait un collègue qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est pas mal, mais c'est pas énorme, c'est la dette de 100 jours de travail, 3 mois de travail. Ça peut se gérer. Cependant, ce collègue ne peut pas actuellement payer. Et nous, on attendrait que ce serviteur remette la dette à son collègue. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le saisit et l'étrangle en disant « Paye ce que tu me dois ». C'est pas gentil, ça. Il ne pardonne pas et peu après, le collègue se retrouve entre les mains des bourreaux jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Que fait alors le roi? Il revient sur sa décision d'absoudre son serviteur. C'est dur à entendre. Et pourtant, il nous dit que si je ne pardonne pas à mon frère de tout mon cœur, Dieu ne me pardonnera pas. Quand nous refusons de pardonner, nous refusons la bénédiction de Dieu. Alors on ne parle peut-être pas ici de notre salut éternel. On ne cesse pas d'être serviteur et enfant de Dieu. Il ne cesse pas de nous aimer. Mais pendant tout le temps que nous gardons rancune, pendant tout ce temps-là, il ne nous bénit pas, nous devenons misérables. Notre refus de pardonner montre surtout que nous n'avons pas compris combien nous avons été pardonnés. Si je ne pardonne pas les torts des autres, c'est parce que je n'ai pas compris combien mon propre péché était grave aux yeux de Dieu, combien j'ai été pardonné moi-même. Et c'est là que se trouve le thème majeur de la parabole. Il faut pardonner parce qu'on a été beaucoup pardonné. Nous n'avons pas le droit de garder rancune, amertume et colère contre notre frère parce que Dieu n'a pas gardé sa colère contre nous. Le pardon vient de l'amour de Dieu pour nous. Alors Jésus montre ici que le refus de pardonner, c'est une preuve qu'on n'a pas compris le pardon que Dieu offre. C'est une preuve qu'on n'a pas réellement saisi ce pardon. Alors il y a un pasteur anglais du 17e, David le connaît peut-être, personnellement je ne sais pas, il s'appelle Thomas Watson, ça te dit quelque chose? Il disait « Nous n'avons pas à monter au ciel pour voir si nos péchés sont pardonnés, regardons dans nos cœurs et voyons si nous pardonnons aux autres. Si nous le faisons, nous n'avons pas à douter que Dieu nous a pardonnés. » Le pardon, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est un impératif. C'est ça que le serviteur n'a pas compris et il a payé cher pour son manque de compréhension. Or, ce qu'on remarque quand même, c'est que le roi qui avait effacé la dette, il ne l'avait pas oubliée. Et quand Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de tes péchés », est-ce qu'on pense que Dieu est amnésique? De ma part, je pense que Dieu, de façon délibérée, se refuse de regarder encore nos péchés. Et Dieu, s'il n'a pas pardonné, en tout cas, s'il nous a pardonné, en tout cas, il n'a pas enlevé les conséquences, toutes les conséquences de nos inconséquences. Et nous, peut-on oublier? Oublier l'offense, ce serait faire comme si elle n'avait jamais existé. Est-ce que cela est possible? En tout cas pour notre nature humaine. Pour ma part, je pense que si on ne peut pas oublier l'offense, on peut ne plus la prendre en compte. Joseph avait-il oublié que ses frères l'avaient vendu en esclave, comme esclave? Genèse 45, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi, ils s'approchèrent. » Il dit, « Joseph, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Joseph, il n'avait rien oublié. Mais il a décidé de ne pas tenir compte de ce que ses frères lui avaient fait subir. L'offense, c'est un peu comme une blessure. Une blessure, ça laisse toujours une cicatrice. C'est le pardon. C'est la guérison de la blessure. Mais la cicatrice demeure et nous n'y pouvons rien. C'est comme quand vous plantez un clou dans une planche et que vous l'arrachez. Il reste un trou. Il reste toujours une marque. Alors la repentance. Cette parabole susciterait probablement beaucoup d'autres questions. mais je crois qu'il y en a une plus pressante que les autres. Où se trouve la repentance dans cette histoire ? Cette parabole ne mentionne pas de repentance. Elle nous donne une vague idée par rapport au cri du serviteur « Seigneur, aie patience envers moi ». Il reconnaît sa dette, mais il va tout régler lui-même. C'est aussi ce que fait son collègue, un soupçon de repentance. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Et dans cette parabole, il n'y a pas assez d'informations pour bâtir une doctrine de la repentance. Au sujet de la repentance, je ne citerai que Acte 3, verset 19. « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Dans une autre situation qui n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie, c'est l'épisode de la femme adultère. Il n'est pas non plus question de repentance. Et pourtant, Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alors on peut en conclure, et moi c'est ce que j'en conclus, que la démarche du pardon n'est pas conditionnée par la repentance de l'offenseur. On pourrait dire, si au moins il était repentant, ce serait plus facile. Vous croyez ? Peut-être. Mais pas nécessairement. Et la repentance, c'est peut-être une condition, mais elle n'est pas nécessaire. Et heureusement, parce que si on ne pouvait s'en sortir qu'avec la repentance de l'offenseur, alors, s'il ne se repent pas, il conserverait toujours des droits sur nous et le pouvoir de contrôler notre vie. Et c'est ce qu'on lui autorise à faire si on ne lui pardonne pas. Alors, ce qu'on apprend, c'est qu'il nous faut une attitude de pardon, même s'il n'y a pas d'attitude de repentance chez l'autre. Et on peut dire aussi que si Jésus a raconté cette parabole, c'est pour que nous nous examinions sérieusement. Pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, même s'il ne se repent pas ? Alors, pardon et réconciliation. Est-ce que le pardon est suffisant pour rétablir une relation ? Le pardon, c'est mon affaire. Il ne dépend que de moi. La réconciliation, c'est une autre histoire. Bien sûr, elle dépend aussi de moi, mais pas que de moi. Ça me rappelle que le pardon de Dieu ne dépend que de lui. Par contre, la réconciliation avec lui dépend aussi de moi et de mon repentir. Dieu, il a pardonné, il est prêt à la réconciliation. Comme le père du fils prodigue qui attendait le retour. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il y a repentance. Alors si la personne qui nous a blessés se repent, on peut rétablir une relation avec elle. On peut laisser la blessure derrière nous et avancer ensemble, réconcilier. Peut-être ce sera plus tout à fait comme avant, mais réconcilier. Et entre chrétiens, ça devrait toujours être comme ça. On devrait reconnaître nos torts, notre péché, et essayer d'être réconcilié avec son frère avant que ça n'aille trop loin. Et ce n'est pas toujours comme ça. Ni entre chrétiens, ni entre membres d'une même famille, alors que faire ? Quand la personne qui nous a offensés ne se repent pas. Notre pardon peut être accordé, doit être accordé, mais la relation reste brisée. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors il y aurait certainement beaucoup à dire au sujet du pardon. Et nous n'avons que survolé le sujet. Mais on a ici cette parabole pour base, pour prendre la décision de pardonner quand nous avons été blessés. Il y a quatre choses que nous pouvons dire aussi à propos du pardon. Pardonner veut dire que nous n'avons plus quelque chose contre quelqu'un. Pardonner veut dire que nous abandonnons notre colère et notre amertume sans nier le fait que nous avons été blessés. Les blessures prennent parfois du temps pour se guérir et c'est idiot de dire « c'est rien, il n'y a pas de problème ». Mais si, il y a quelque chose, il y a un problème. Et le pardon admet ce fait. Il m'a blessé, mais je lui pardonne malgré ma blessure. Pardonner ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Il y aura peut-être des conséquences. Nos pardons ne l'absout pas de la responsabilité de ses actes. Mais nous renonçons au droit de nous venger sur lui. Pardonner veut dire que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons été nous-mêmes pardonnés. Dieu ne tient plus compte de notre péché. À leur sujet, on n'a plus de compte à lui rendre. Alors peut-être que ces quelques mots sur le pardon ont eu un écho en vous. Que pouvons-nous en faire ? Il se peut que nous soyons tellement blessés que nous ne nous sentons pas capables de pardonner. Or, c'est peut-être le moment de demander l'aide de Dieu pour vraiment pardonner. Demandons-lui qu'il nous donne déjà le désir de pardonner. Pardonner, ce n'est pas facile, c'est quelquefois coûteux. Mais si nous obéissons à sa parole, Dieu nous bénira certainement. Dans le psaume 126, on trouve ces mots. « Ceux qui sèment avec larmes moissonnera avec des chants d'allégresse. » Alors finalement, il faut nous dire que même pour pardonner, on a besoin de la grâce de Dieu. Pardonner, c'est une décision à prendre, mais on ne la prend pas tout seul. Celui qui nous a pardonné est capable de nous aider. Et même quand les sentiments nous trompent et que nous voulons rester dans notre petit coin, blessés, vous savez, comme les animaux blessés. Mais peut-être aussi, on est de l'autre côté de la barrière. Il se peut que quelqu'un ait quelque chose contre nous. C'est maintenant, devant Dieu, le moment de penser à être réconcilié. Prenons de la résolution de mettre ces choses en ordre si cela compte vraiment pour nous. Matthieu 5, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Alors pour finir, j'aimerais qu'on chante. C'est dans J'aime 642, « Pardon Seigneur ». Pardon.